RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphresne.
La flamme s'est éteinte dans la nuit, cérémonie de clôture des Jeux paralympiques hier soir qui met fin à près de 2 mois de fêtes dans Paris pour célébrer le sport. Au départ réticent, les Français, Louis Dauphresne, se sont finalement pris au jeu.
Eh bien oui, écoutez, c'est un emballement, un engouement, je ne sais pas quel terme, quel superlatif utiliser, mais en tout cas, il n'y a pas de précédent en fait. On n'avait pas dans l'histoire vu pareil succès d'audience aussi pour France Télévisions qui a largement communiqué sur le sujet. Et ça nous amène à reconsidérer un petit peu les choses, finalement, ce que ces Jeux ont changé du point de vue du regard qu'on porte sur le handicap en particulier.
Et on se pose la question ce matin avec Gilles Lecoq. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été aumônier des Jeux paralympiques au village olympique ces 15 derniers jours. Alors vous allez nous raconter de quoi il s'agit. Et on va s'interroger aussi avec vous sur la question de l'accompagnement de ces athlètes. Mais d'abord, ce matin, Gilles Lecoq, vous êtes quand même un passionné de sport. Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Un peu fatigué parce que la troisième mi-temps hier soir a été très sympathique avec à la fois les athlètes et les organisateurs. Mais c'est une fatigue à la fois qui réjouit et également une fatigue qui laisse un grand vide. Parce que depuis quelques semaines, on était tous focalisés sur des challenges.
Quelle a été votre mission pendant ces Jeux ?
Alors, cette mission, c'était d'assurer une présence chrétienne avec nos collègues protestants et orthodoxes dans le village olympique. Donc, sur les recommandations du Comité international olympique et du Comité international paralympique. Et puis, c'était d'être présent pour accueillir les athlètes qui souhaitent de temps en temps trouver un espace pour prier et méditer dans le calme, qui souhaitent aussi s'interroger, notamment après les compétitions, sur finalement qui suis-je au-delà de la quête d'une médaille, surtout lorsque les projecteurs vont s'éteindre. Et là, pour certains, le mois de septembre, d'octobre, novembre va être
difficile.
Effectivement, en tout cas, va être une expérience à vivre. Et je souhaite que la présence chrétienne continue son œuvre en fonction des demandes qui seront adressées.
Gilles Lecoq, vous êtes également professeur de psychologie à la Cato de Paris. Oui. En quoi y a-t-il aussi un besoin d'accompagnement pour ces athlètes ? Enfin, ils sont confrontés à la performance, ils sont confrontés à la compétition extrêmement dure pour laquelle ils se préparent depuis des années. C'est quoi leur état d'esprit pendant les Jeux ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir, par exemple ?
Alors, il faut aussi considérer que pour la plupart, ils ont déjà eu, avant les Jeux, une préparation à la fois psychologique, un accompagnement spirituel. Donc, ils sont prêts pour le grand jour. Leur besoin au niveau du village olympique, c'est quelque part de trouver un lieu où ils vont pouvoir s'extraire pendant un petit moment du tourbillon que ces Jeux procurent et également d'apprécier combien la gestion du temps n'a rien à voir avec une préparation mentale, mais fait que quand des victoires se jouent à 0,2 seconde, c'est important de pouvoir habiter pleinement son corps pour pouvoir se connecter à l'extrême d'une performance sportive.
Mais en quoi a-t-on besoin d'un aumônier ou d'un prêtre pour ça ? Il y a des professionnels de la gestion, du temps.
Alors, il y a des professionnels de la gestion. La personne qui est de religion catholique, donc est habituée à des rituels dans sa paroisse, est habituée à travailler aussi avec des aumôniers avant la compétition. Et de temps en temps, il a besoin d'un espace juste pour considérer qu'il y a une présence qui est là. Et l'objectif n'est pas de les faire gagner plus que ce que l'entraîneur va leur proposer, mais quelque part qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent respirer, donc en lien avec des aspects qui sont proches de sa religion et qui vont lui permettre de partager avec des personnes qui sont proches aussi de cette religion.
Alors dites-nous comment vous avez été sollicité, comment ça se passe ? Il y a une petite clochette et on vous appelle quand on a besoin de vous ?
Il n'y a pas une petite clochette, on est le centre et le lieu où ils peuvent venir. Donc on était basé, alors c'est peut-être un symbole du côté de l'étoile. Hein, il y avait une entrée qui s'appelait l'étoile. Et donc ils sont au courant que ce centre existe. Et donc en fonction de leurs besoins, c'est eux qui se déplacent et puis qui font leur demande.
Dans ce centre, il y a donc toutes les religions, il y a un aumônier pour chaque religion. Racontez-nous, décrivez-nous ce centre.
Alors, dans ce centre, il y a donc effectivement la présence chrétienne avec nos amis protestants et orthodoxes. Hein, donc, on avait un territoire à partager, Hein, donc, et puis, donc, à la religion juive, l'islam était présent, le bouddhisme était présent, l'hindouisme hein, était présent. Donc, toutes les religions avaient son espace. Et les athlètes qui venaient de tous les pays pouvaient prendre le temps, hein, en fonction de leur confession, pour, je dirais, j'aime bien ce mot, souffler, respirer, inspirer, expirer, de façon un peu différente que ce qu'ils font dans la pratique sportive habituelle.
Et dans quelle proportion avez-vous été sollicité? Vous estimez que vous avez, pendant tous ces Jeux paralympiques, vous avez été beaucoup mis à contribution?
Alors, heureusement, pas beaucoup, parce que ça signifie que pour beaucoup d'athlètes, il y a déjà des démarches qui ont été faites. Hein, il faut aussi considérer que certaines délégations ont leurs aumôniers dans leur délégation. Alors, notamment du côté des Anglo-Saxons, c'est presque une habitude. Mais que, par contre, d'autres athlètes qui, à certains moments, pouvaient se sentir esselés, donc avaient cette possibilité de se retrouver hein, donc avec nous pour, justement, je le redis, trouver cet espace pour méditer, pour prier, on peut utiliser les mots qu'on veut, dans le calme.
Il y a des nationalités qui sont plus venues vous voir que d'autres?
Non, statistiquement, on ne peut pas forcément le mentionner. Alors, on peut juste considérer que la cellule qui s'occupe du contrôle antidopage étant à côté, il y a eu pas mal de passages et puis d'échanges.
Vous étiez bien placé.
Finalement, on était bien placé. Donc, et puis quand les personnes sont à la recherche de quelque chose, s'ils nous trouvent, c'est que voilà, c'est un signe hein, qu'ils ont fait la démarche. Mais l'essentiel dans le village olympique, et ça nous a été bien précisé, et on était en accord avec ça, l'idée n'était pas d'aller au contact des athlètes, mais d'être présent à un endroit lorsque les athlètes souhaitent effectivement prendre un temps pour eux avec la religion qui est la plus proche pour eux.
Et comment se noue la relation précisément? L'athlète vient vous voir en disant « Monsieur Lecoq, écoutez, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de respirer, je ne suis pas bien, qu'est-ce que vous avez à me dire ?»
Alors,
Il y a un discours que vous avez à placer, le
message, ce n'est pas « j'ai besoin de vous », c'est plutôt « j'ai besoin d'un espace pour me prendre du temps pour moi ». Et puis, donc, dans un premier temps, on va le laisser effectivement occuper l'espace et puis se recentrer, puisqu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, une fois que l'athlète considère qu'il a pu quelque part retrouver une assise, on a des échanges un peu sur son histoire de vie, sur la question « qui suis-je ?». Hein, et puis surtout, c'est un petit peu de voir avec lui quel va être son avenir. Hein, je le redis encore une fois. Hein,
On parle de l'avenir.
Alors on parle de l'avenir, notamment quand la compétition est terminée. On peut considérer que les Jeux Olympiques, comme le Tour de France, comme toutes les compétitions, c'est une machine à laver hein, qui essore les athlètes. Et quand la compétition est terminée, il n'est pas si évident que ça de retrouver, on va dire, la vie habituelle. Et il y a des questions que peuvent se poser les athlètes. C'est des questions tout à fait basiques. Est-ce que mon sponsor va reconduire mon soutien? Est-ce que mon club va continuer à fonctionner pour m'accompagner? Donc, c'est des questions existentielles.
D'accuser le coup par rapport à la compétition. Mais est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir en disant, tiens, j'ai tel rituel, j'ai l'habitude de faire tel rituel, est-ce que le religieux peut me faire gagner à travers, je ne sais pas moi, telle ou telle parole, telle ou telle lecture? Est-ce qu'il y en a qui peuvent utiliser le religieux comme un levier? Est-ce que ça vous a été demandé?
Alors, la lecture, ceux qui viennent, la lecture des textes, les textes, ils les connaissent déjà. Et donc, souvent, leur demande, c'est de dire, voilà, par rapport à cette partie du texte, ce matin, bon, comme je l'ai relu, ça m'a particulièrement intéressé. Puis je voudrais reprendre peut-être avec vous un peu ce passage. Mais c'est de considérer que ces athlètes qui viennent ont déjà, je ne sais pas si le mot est correct, mais déjà une culture intériorisée de la religion à laquelle ils appartiennent. Donc, ce n'est pas des néophytes, hein, ce n'est pas des béotiens, c'est des personnes qui vraiment ont incorporé, on va dire, la dimension spirituelle dans leur vie sportive.
Elles acceptent, ces personnes, d'être citées, d'être connues comme telles, ou elles préfèrent la discrétion?
Alors moi, en tout cas, dans ma pratique, je préfère la discrétion, hein, puisque l'échange qui se fait dans deux mots qui sont le respect et puis le mot qu'on vient d'utiliser, c'est la discrétion. L'essentiel, c'est ce qui se passe entre deux personnes au moment où ça se passe dans un lieu circonscrit. Et puis après, lorsque la personne retrouve ses habitudes, elle peut parler. Hein, on a eu des exemples souvent de considérer que le bouche à oreille a été aussi une sorte de communication efficace. Mais je pense que par rapport à vos travaux à la radio, vous savez combien le bouche à oreille.
Ah bah le bouche à oreille, c'est notre métier.
Voilà.
Et bien justement, nous sommes avec Gilles Lecoq. Il est professeur de psychologie à la Cato de Paris et aumônier aux Jeux paralympiques. Gilles Lecoq, il y a aussi la question de la performance pendant ces Jeux. Le para-athlète n'a qu'un seul objectif, c'est gagner des centièmes, gagner des dixièmes. Et pour autant, il est marqué dans son parcours par la fragilité, par le handicap. Est-ce que dans votre mission d'aumônier catholique parmi ces athlètes paralympiques, il y avait aussi cette question d'allier la performance avec la fragilité?
Alors, je ne suis pas certain, on pourra en discuter à d'autres occasions, que les athlètes, les para-athlètes soient plus fragiles que les athlètes des Jeux olympiques. Je considère que même s'ils ont vécu des situations extrêmes au niveau de leur corps ou de leur mental, ils ont appris... quelquefois très jeune, à développer, alors j'utilise le mot un peu fourre-tout, mais je vous propose des stratégies de résilience qui fait que quelque part, ils sont presque plus forts et plus souples pour vivre pleinement ce que peut être une compétition sportive pour les para-athlètes. C'est-à-dire que les para-athlètes ont déjà développé tout un processus de réathlétisation de leur corps avant d'être performant. Et quand ils viennent pour faire des performances, ce n'est pas parce qu'ils ont été fragilisés, c'est parce que, quelque part, ils ont développé des compétences exceptionnelles qui leur permettent de performer dans leur catégorie.
Y a-t-il une rencontre, Gilles Lecoq, qui vous a ému dans cette quinzaine de paralympiques, au titre, bien sûr, du rôle que vous aviez?
Alors, ce qui m'a ému, mais en tout cas, bon, qui peut aussi nous interroger au niveau de l'Église catholique, c'est des athlètes qui sont porteurs de plusieurs handicaps. Et puis, la question du transgenre qui se pose, en sachant que le phénomène n'était pas forcément très présent, mais de considérer que il peut y avoir une para-athlète qui est présente parce qu'il y a des déficiences au niveau sensoriel, et puis aussi aller quelque part étiqueter comme transgenre, et de considérer que le débat qui va se poser dans quelques temps, c'est lorsque ces personnes qui sont acceptées tant qu'elles ne gagnent pas vont gagner. Est-ce qu'elles vont réellement être incluses ou est-ce qu'elles vont subir, on va dire, des processus d'exclusion?
Mais il y a une athlète transgenre qui est venue vous voir, ou un athlète transgenre?
Alors, on en a croisé.
Ce que j'observe, c'est que on a tous observé que la Chine a obtenu beaucoup de médailles. Hein, oui. 220 médailles, 94 titres, la Grande-Bretagne 49, les États-Unis 36. Est-ce que du point de vue religieux, il y avait par exemple la religion ou la philosophie confucéenne qui était représentée? Est-ce qu'il y avait les anglicans côté Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y avait les évangéliques côté États-Unis?
Oui, oui.
Donc chaque fois, on descend au niveau à la granularité de chaque pays pour l'expression religieuse.
En tout cas, toutes les religions sont représentées. Alors, dans les pays que vous avez cités, les aumôniers sont déjà présents dans les délégations. Hein, donc il y a aussi cet aspect. Alors, dans les pays, vous pouvez aussi citer le Brésil et la Hollande, hein, parce que c'est aussi deux exemples qui sont très intéressants. Alors,
Pourquoi ?
Alors, pour le Brésil, de considérer qu'eux ont organisé les Jeux en 2016, et donc les Jeux ont été un booster aussi à la fois pour les Olympiques et les Paralympiques. Et puis la Hollande est quand même un petit pays qui, aussi bien au niveau des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, a obtenu énormément de médailles. Et comparativement, par rapport à la France, ses résultats sont exceptionnels. Donc on verra comment on peut analyser hein, ces résultats. Mais pour reprendre votre question, pour la Chine, on peut considérer que il y a eu Pékin 2008 aussi, hein, qui a été un booster. Et puis on peut considérer que les ressources humaines chinoises sont telles que les détections, on va dire, qui ne sont pas forcément le même mode de détection qui sont faites dans d'autres pays.
De détection d'athlètes paralympiques.
D'athlètes paralympiques effectivement, qui vont être performants. Il y a tout un travail, on va dire, de détection qui est faite, hein, qui fait que les résultats vont presque de soi, quoi.
Mais est-ce que la philosophie ou la manière d'appréhender le monde tel que la Chine le conçoit, ou du moins dans la philosophie chinoise ou confucéenne, est-ce que ça permet d'aborder une compétition de manière plus adaptée, je ne sais pas, ou moins adaptée que dans le christianisme? Quel jugement portez-vous là-dessus?
Alors, le jugement que je porterai, c'est que les médailles au niveau de la Chine ne se jouent pas forcément sur ce registre, hein, qu'il y a une autre dimension, on va dire, de
Laquelle,
moi, je dirais que la Chine souhaite, en termes de soft power, être présent dans les compétitions sportives pour affirmer, on va dire, une certaine forme de supériorité, et que la dimension religieuse est peut-être présente, mais pas totalement, avec un contre-exemple, et puis je termine, c'est l'Inde, hein, qui est aussi un pays où il y a énormément de populations qui, eux, ne sont pas encore rentrés dans cette logique de pratiques sportives.
Merci beaucoup Gilles Lecoq. Je rappelle que vous avez été aumônier lors de ces Jeux paralympiques dont on continue à parler pendant le débat du jour à partir de 9h10.